Bonjour à tous. On va commencer. Au programme aujourd'hui, donc, j'ai invité Emmanuel Duchesne pour un sujet non orthodoxe qu'on a sobrement intitulé Orgasme et cerveau. Alors, qu'est-ce que ça vient faire chez les sceptiques? Quel est le lien entre les sceptiques et l'orgasme, ou entre les sceptiques et la sexualité, finalement? Est-ce que c'est pas un peu une provocation d'apporter un sujet comme ça dans nos conférences? Si, c'est une provocation de ma part, en fait. Je l'assume complètement. C'est une provocation pour bousculer un petit peu les habitudes machistes et conservatrices de la communauté sceptique francophone. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Alors, on peut voir la mission des sceptiques, pour ceux qui ne nous connaissent pas, comme promouvoir la culture scientifique, ou comme examiner de manière critique les affirmations extraordinaires, telles que les affirmations sur les ovnis, sur le paranormal, sur les théories du complot, sur les médecines alternatives. Mais on peut aussi avoir une définition plus large du scepticisme. On peut voir, et c'est la définition que je pense j'adopte une définition assez large, on peut voir le scepticisme aussi comme une entreprise de déconstruction des illusions dont on baigne tous les jours dans la société. On peut voir le scepticisme comme un ensemble de valeurs qui présentent une alternative aux visions du monde véhiculées par les religions. Et dans ce cas-là, le scepticisme serait étroitement dépendant d'une philosophie humaniste. Selon ces trois définitions, donc le scepticisme comme promotion de la culture scientifique, comme déconstruction des illusions et comme ensemble de valeurs humanistes, on peut aborder effectivement la question du sexe ici, selon différentes perspectives. Je donne quelques exemples. Par exemple, on pourrait s'étonner ensemble de l'histoire des études scientifiques sur le clitoris. Pourquoi est-ce que le clitoris, on en a seulement fait l'anatomie à partir de 1998? Pourquoi est-ce que la résonance magnétique du clitoris date de 2005, par une équipe australienne, comment ça se fait? On pourrait aussi ici débattre avec les fondamentalistes américains qui commencent à s'emparer de la science autour du cerveau, des connexions neuronales, des hormones, de l'ocytocine, pour justifier le fait qu'il faut s'abstenir de relations sexuelles avant le mariage. On pourrait, comme le fait Dan Savage, qui a été élu humaniste de l'année en 2013 par l'association humaniste américaine, remettre en question le concept de monogamie. Lui, il a formé un concept qu'il appelle monogamish, c'est-à-dire que pour lui, il faut être plus ou moins monogame pour avoir une relation stable et durable, et donc ça veut dire qu'on peut aller voir de temps en temps, à droite à gauche, selon certaines règles. Alors, j'ai quand même apporté ces bouquins, parce que ces bouquins font partie des bouquins dont je suis le plus fier de... Ces bouquins sont ceux que je suis le plus fier de posséder dans ma bibliothèque. Par exemple, celui-ci, qui est un bouquin American Savage, donc à partir de son nom, qui est un bouquin, un essai sur différents thèmes, et l'homosexualité revient assez fréquemment. Mais alors, par-dessus tout, celui-ci, Savage Love, qui a le nom de la chronique qu'il tenait dans un journal américain, dans lequel il répondait aux questions sur la sexualité que les gens lui envoyaient. Et là-dedans, il y a toute une philosophie, pour moi, une philosophie autour de la sexualité, qui est la philosophie que les athées devraient adopter pour se débarrasser de leur conception judéo-chrétienne de la sexualité. Et donc, il fait ça dans ce livre, je trouve ça formidable. Et il a ce concept de monogamie, donc d'être plus ou moins monogamie, bas en brèche, la monogamie. Et donc, là-dessus, je peux peut-être montrer un autre bouquin que j'ai lu et apprécié, qui sera peut-être une bonne référence pour n'importe qui, puisque c'est un bouquin qui parle avant tout de comment communiquer dans une relation. C'est The Ethical Slut, certains ici le connaissent, qui est un bouquin qui traite justement de comment avoir des relations non monogames. Bon, voilà. Et, dernier exemple, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'un point de vue sceptique avec la sexualité? On peut donner une vision positive de la sexualité, contrairement à la vision négative et lourde du sexe qu'on donne en général partout ailleurs, dans les cours d'éducation sexuelle par exemple, même s'ils sont bien intentionnés. Lessie Green a une chaîne sur YouTube, donc c'est L-A-C-I-G-R-E-E-N. Et Lessie Green, qu'est-ce qu'elle fait sur YouTube? Elle discute de tout un ensemble de sujets qui sont des sujets centrés autour de la sexualité, mais de manière positive, de manière humaniste, j'ai envie de dire. Et cette Lacey Green, qu'est-ce qu'elle était avant de devenir une espèce de star dans son domaine sur YouTube? Elle faisait des vidéos sur l'athéisme. Donc, les deux, sexualité et scepticisme, sont bel et bien liés. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel. Bien que Emmanuel ne soit pas dans la communauté sceptique, il me semblait qu'elle avait un point de vue intéressant en tant que coach de méditation orgasmique pour faire susciter ici des débats à propos de ce sujet-là. Alors, je suis sûr qu'on sera certainement pas tous d'accord sur ce qui va être dit aujourd'hui. Je sens que les interventions vont aller dans tous les sens. Mais juste un petit élément d'information avant de commencer sur la méditation orgasmique. C'est un espèce de mouvement, je laisserai le soin à Emmanuel de le présenter, qui a été fondé par Nicole Daydon. Et on peut lire les fondations de ce mouvement dans son bouquin intitulé « Slow Sex », que j'ai lu cette semaine et je trouvais qu'il a le mérite, qu'on en parle. Donc voilà. Je vous ai planté le décor, c'était un petit peu long aujourd'hui. Mais Emmanuel, je te cède la parole et je te propose de commencer par te présenter parce que je n'ai pas voulu te présenter moi-même pour te laisser la liberté de donner la direction que tu veux.
Super, merci beaucoup. Ok, super. Donc, me présenter. Donc, je suis... l'été 2011, j'ai découvert la méditation orgasmique et quand j'ai vu sur mon écran d'ordinateur ces deux mots-là, je me suis dit... Ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais toute ma vie. J'ai pas besoin de l'inventer, c'est déjà fait. Je peux passer à l'étape suivante. Donc j'avais déjà l'intuition, j'avais déjà un peu ces ingrédients-là. Je savais qu'il y avait une piste par là pour moi. Pour vous dire, but en blanc, quelque chose de très intime et personnel, puisqu'on y est. Je pensais que j'avais pas d'orgasme avant. Quand j'ai découvert la méditation orgasmique, notamment le TEDx de Nicole Daydon, j'ai réaliser que c'était pas que j'avais pas d'orgasme, c'est que la définition qu'on donnait à l'orgasme habituellement ne correspondait pas à ce que mon corps fait et ce à quoi mon corps aspire. Donc je vous expliquerai un peu plus tard la différence entre l'orgasme et l'orgaste. Il y en a qui connaissent déjà les différences ou pas? Personne. Ok. Bon, ok, je peux vous apprendre un petit truc alors. J'ai fait une formation de PNL, de neuro... Neuro-linguistic programmation, voilà. Et l'hypnose avec ça, mais je suis plus dans la PNL que l'hypnose. Et que dire? Et ouais, donc quand j'ai découvert la méditation orgasmique, je me suis lancée dedans. Je me suis dit, c'est génial, c'est pour moi, c'est super, je veux que tout le monde découvre ça. Et je dirais que ça m'a, plus qu'autre chose, ça m'a apporté un langage pour ce que je ressentais, ce que j'intuitais. Donc la méditation orgasmique m'a apporté simplement un langage et une structure. Pas que, hein. Mais m'a donné une structure pour vivre ce que je désirais vivre avec quelqu'un d'autre et le communiquer. Est-ce que vous avez... Alors, bon, je vais vous expliquer des choses, mais est-ce que déjà vous avez des questions? Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre plusieurs questions et du coup, ça donnait... l'orientation de ce dont je vais vous parler. Comme ça, j'ai plus de chances de vous intéresser. S'il y a des questions déjà ou des commentaires, des... Ouais.
Déjà la différence entre l'orgasme et l'orgasme.
Ok.
C'est quoi la méditation orgasmique?
Très bien, ok, alors, super. Bon, oui.
Est-ce qu'on commencerait plus par une méditation ou plus par un rapport sexuel?
Pour... Ça dépend quel est le but, non?
Je sais pas, le départ... Quel
est
le point de départ?
D'accord, ouais, ok, super, merci. Ok.
Est-ce qu'on va être plus heureux après?
You tell me in a week from now. Tu me le dis dans une semaine. Autre chose? Ok.
Qu'est-ce que ça apporte?
Ouais. Ok, d'accord, très bien. Donc la méditation orgasmique. Qui, alors déjà, juste pour faire connaissance avec vous, qui a déjà pratiqué la méditation? Une forme de méditation ou une autre? Ok, super, très bien. Qui connaît un petit peu sur les hormones, le cerveau, le système nerveux? Super, très bien. Donc vous pourrez m'ajuster quand des fois je... C'est très très complexe. Ok, et qui est passionné par la sexualité et les relations? Allez, allez. Qui trouve ça totalement mystérieux, l'orgasme et l'amour? Incompréhensible, mystérieux. Ok, super. Ça va être ma porte d'entrée. Donc déjà, je vais répondre aux questions de base. Donc la méditation orgasmique, peut-être je peux me mettre debout. Donc la méditation orgasmique, c'est une pratique méditative qui se fait à deux. Elle dure 20 minutes et pendant 15 de ces 20 minutes, en général c'est un homme, alors c'est un grand débat pourquoi, mais on en parlera peut-être plus tard, en général un homme caresse le clitoris d'une femme. Avec tout un protocole de communication et des étapes, c'est très 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 structuré. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça, et la communication est très importante, et c'est, le fait que ce soit une méditation, c'est très important, et pour répondre à ta question, c'est une méditation. C'est uniquement un rapport sexuel dans le sens où on touche le sexe, et on met des gants. Donc c'est tellement encadré, la personne qui garde ses vêtements, l'autre enlève uniquement le bas, et surtout on recommande aux gens de ne pas associer ça à un rapport amoureux ou érotique, dans l'heure qui vient, je dirais. Enfin, on essaie de séparer un maximum que ça ne devienne pas un préliminaire. Donc, c'est pas toujours facile. voilà, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Moi, ce que ça m'a... Je vais vous dire ce que moi, ça m'a apporté. Ce que ça m'a apporté, c'est... Avant, je ne savais pas... Je ne savais pas exprimer les choses avec mes partenaires. J'en parlais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, peut-être aujourd'hui. Je disais, quand il y avait quelqu'un qui m'attirait ou que j'attirais, j'allais entamer un rapport amoureux ou érotique uniquement si j'étais sûre que je pouvais, que j'étais OK avec ce qui pouvait se passer. Par contre, quelqu'un... Parce que je ne savais pas dire non. Je ne savais pas poser mes limites et je ne savais pas dire non. Donc, les choses pouvaient glisser dans une direction sans que je le veuille vraiment, mais comme je ne savais pas identifier ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, je me rendais compte que des heures après, ah mais en fait c'est pas de ça que j'avais envie, c'est pour ça que je me sens pas bien. Et aujourd'hui, je suis plus connectée à mon corps, donc moi ça m'a apporté de savoir exprimer ce que je désire, ce que je ne désire pas, poser mes limites, poser mon cadre, et ressentir mon corps d'une façon que avant je ressentais pas quoi. Exemple, avant j'allais tomber amoureuse vous savez, le cliché du parisien intellectuel qui est sur sa terrasse avec des petites lunettes et sa petite jaquette et son petit truc avec du cuir et son bouquin. Ouais, les cheveux mi-longs. C'était ça, moi, je tombe amoureuse des mecs comme ça. Aujourd'hui, je laisse plus ma tête choisir pour moi, c'est mon corps. Donc, je sens la présence de quelqu'un, cette personne est près de moi. Et là, je fais, oh, mon corps se sent détendu, ouvert. C'est pas du désir, mais mon corps se sent détendu et ouvert. Et là, je dis, ok, je peux... aller voir ce qui peut se passer. Et depuis, j'ai des bons coups. Parce que c'est pas que les gens sont des... les autres sont des bons ou des mauvais amants, c'est juste que on fait l'amour avec son corps. Donc je laisse mon corps choisir et ça se passe beaucoup mieux. Donc ça fait partie des choses que ça m'a apporté moi. Et pour les partenaires que j'ai pu observer, et ce qu'ils ont pu me dire, plus que moi j'observais que les garçons qui pratiquent, et surtout avec ceux avec qui j'ai pratiqué, ils gagnent en confiance en eux. C'est-à-dire que, comment dire, j'ai mon premier partenaire vraiment régulier, il était grand comme ça, une corpulence, un peu comme un nain, mais il n'était pas un nain. Voilà. Et il jouait aux jeux vidéo toute la journée, il mangeait de la junk food, il avait tout le temps les mêmes trois amis qu'il voyait régulièrement, il avait du mal à aller vers les autres, etc. Et il n'avait pas connu de fille depuis quelques années. Et on a pratiqué pendant quelques mois. Et il a trouvé une chérie rapidement. Maintenant, il en a plusieurs. Et c'est beaucoup plus sympa. Parce qu'il sait comment vous dire. Et bien, là, je vais rebondir sur vraiment ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais d'abord, je vais répondre à ta question. Je ferai le lien après. Donc la différence entre l'orgasme et l'orgaste. On peut aussi dire, dans mon école, on dit orgasme et climax. On va se mettre d'accord sur orgasme et orgaste, c'est plus en français, je trouve. L'orgaste, c'est une réaction physiologique à une stimulation. C'est beaucoup plus mécanique. D'accord ? Chez les hommes, le classique éjaculation. Je sais pas, vous pourrez dire, pour vous parler pour vous-même, les hommes, que vous, enfin, il y a pas mal d'hommes qui me disent qu'ils peuvent éjaculer sans aucun plaisir, ou avoir des orgasmes sans éjaculation, ou être, juste être fatigué d'avoir ces quelques secondes d'intense plaisir, mais pas pouvoir rester sur un plateau comme les femmes peuvent le faire et d'avoir multiples orgasmes. Ce qui est chouette d'ailleurs, ce que ça peut apporter, je vois chez mes partenaires qui pratiquent la vitesse orgasmique, c'est qu'ils arrivent à avoir des orgasmes multiples sans faire exprès. Donc ils arrivent à avoir des orgasmes sans éjaculation, et avoir plusieurs et sans faire exprès, quoi. Sans avoir à faire des exercices de respiration incroyables qui viennent de la Chine profonde. Ça se fait naturellement. L'orgasme, donc ça c'est pour l'orgasme, d'accord ? Donc c'est des contractions du plancher pelvien, augmentation de la température, palpitation, transpiration, etc. Et puis surtout, c'est un pic et après ça redescend. Donc après, période de rétractation, hop, on a... Moi je sais quand ça m'arrive, je suis excitée. Après, c'est fini, plus rien et j'ai plus envie, j'ai plus le désir. C'est fini. Donc il y a une coupure nette. Maintenant j'ai... presque plus, ça disparaît de plus en plus. Maintenant, ça monte et puis ça redescend. C'est toujours agréable en descendant. Et ça peut mettre très longtemps à redescendre. Des fois, plusieurs jours. Donc, l'orgasme, donc, c'est, ce que je vais vous dire là, c'est ma définition qui me correspond. L'orgasme, c'est tout ce qui vit à l'intérieur de mon corps, en dehors de mon contrôle. C'est très, 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 très large. Mais là, c'était un peu... C'est plus quand vous venez au cours, si vous voulez apprendre, je vais aller plus par là. Mais en gros, pour faire court, ça n'a pas vraiment de début, ça n'a pas vraiment de fin, ça a des pics, des vallées, ça se balade un peu dans toutes les directions. C'est toutes les sensations qu'on a. D'accord ? Et après, il se passe plein de trucs dans le cerveau, aussi au niveau hormonal, et là, on va plus dans le côté scientifique et ce qui a été mesuré, observé. Est-ce que c'est un peu plus clair la différence ?
En fait, ce qu'on a l'habitude de nommer orgasme, vous le nommez orgasme, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et orgasme, c'est beaucoup plus large. Et ça inclut l'orgasme. C'est comme si vous imaginez une symphonie, les cymbales à la fin, c'est l'orgasme. Mais hey, y a toute une symphonie avant, quoi. Bonjour. Et on est là pour ça aussi. Et ce pourquoi je suis si passionnée par la méditation orgasmique, entre autres, c'est que ça fout une pression incroyable sur les hommes et les femmes, ce coup de cymbale à la fin, quoi. On s'en passerait bien des fois. Et puis aussi, le plaisir peut être complètement invisible. Il peut être sans démonstration externe. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans la méditation orgasmique, c'est que je peux être dans un état, on va dire, extatique, être complètement immobile et faire aucun bruit. J'ai pas besoin de faire la porn star. Et mon partenaire, il ressent des choses lui-même, donc j'ai pas besoin de le rassurer ou m'occuper de lui. Et donc, je peux ressentir plein de choses et on est connecté. Ça, c'est super, parce que sinon, c'est fatigant. Pour moi. Est-ce que j'ai répondu à peu près aux questions sur la méditation orgasmique ? Il y a plein de documentation sur le sujet, et je donne des cours, et je peux en parler davantage. Mais j'ai envie d'avancer. Ça va ? Pour tout le monde ? Ouais ? Ok, super. Donc... Pourquoi ? Le lien, c'est quoi ? C'est pourquoi c'est si mystérieux, les relations, l'amour et l'orgasme. Vous savez pourquoi c'est si mystérieux ? Pourquoi c'est si incompréhensible ? Parce que ça se passe dans la partie du cerveau qui est assez séparée de la partie du cerveau qui pense et qui peut réfléchir et qui peut observer la partie consciente, en fait. Donc on a dans le cerveau, et ceux qui s'y connaissent bien pourront ajuster, améliorer ce que je dis et me rectifier si besoin. On a donc la partie la plus ancienne qui est le cerveau reptilien, qui s'occupe de nous dire « Ah, il faut que tu fasses pipi !» ou « Oh, tu as besoin de manger !» ou qui va réguler notre température, notre digestion, notre sommeil, etc. Tout, vraiment, on ne contrôle pas du tout. Ensuite, on a le système limbique qui est fait de plusieurs parties du cerveau, qui n'est pas très... Ce que je lisais, je voyais d'une scientifique qui en parlait tout à l'heure, qui disait que c'est assez sous-estimé et pas très bien étudié. Et... Pourquoi ? Parce que c'est justement cette partie du cerveau. On ne sait pas expliquer comment il fonctionne déjà. Donc le système limbique sert, entre plein d'autres choses, à ressentir nos sensations corporelles, ressentir nos émotions, mais aussi celles des autres. On ne sait pas comment. mais ça sert à ça. Je voyais ça dans un article avant de venir, que donc l'amygdale, quand elle fonctionne pas ou qu'elle est enlevée, peu importe, les gens qui n'ont plus d'amygdale ou qui fonctionnent pas peuvent identifier et reconnaître toutes les expressions faciales sauf celle de la peur. Et l'amygdale, c'est notre centre de vigilance. C'est cette partie de nous qui est la petite voix qui nous dit « Oui, mais et lui, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et qu'est-ce qui va se passer après ? Mais après, il voudra coucher avec moi. Mais j'ai un truc sur le feu, mais je vais être en retard. Je ne peux pas complètement faire ça. Mais qu'est-ce qu'il va voir de moi si je me laisse complètement aller ? Mais qu'est-ce qui va sortir de ma voix ?» C'est pour ça que, pour moi, l'orgasme, c'est le gros truc. Ça me fait terriblement peur. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je perds le contrôle. Et toute la partie du cerveau qui est consciente s'en va, donc il faut que j'ai vraiment confiance en les personnes avec qui je suis. Donc ça, c'est le système limbique, c'est propre à tous les animaux, surtout les mammifères. Le reste, je ne saurais pas trop vous dire comment ça fonctionne, mais surtout les mammifères, parce que ça permet de vivre en groupe. Ça permet, c'est la partie du cerveau qui permet de prendre les informations extérieures sur les autres, les processer de façon inconsciente et nous donner une réponse. C'est ça qui fait qu'on peut cohabiter, communiquer, etc., sans avoir à réfléchir. Genre, ou je vois que ses pupilles. Vous savez, quand les mecs, ils ont fait des cours et qu'après, ils regardent si mes tétons, ils sont durcis ou pas, si mes pupilles sont dilatées ou pas, et du coup, ils essaient d'interpréter si je suis baisable ou pas. Vous voyez ? Normalement, ça se fait de façon inconsciente, et juste on sent des choses et on a envie de le faire ou pas. Mais si on commence à décomposer, c'est...
Je vous les conseille.
Donc ça, c'est la partie du cerveau qui fait ça sans avoir besoin de réfléchir. En fait, c'est la partie intuitive. C'est la partie qui fait, je ne sais pas pourquoi, je pense à mon père, je l'appelle, ah bah il ne va pas bien. On ne sait pas comment ça se passe. On est en cours, là, si admettons, il y a une personne qui rentre, d'un coup, il y a une ambiance complètement différente dans la salle, et ben, c'est peut-être qu'on a ressenti que cette personne était très en colère ou très triste et que d'un coup, la vibe, elle change complètement, même si on n'a pas vu son visage. C'est ça qui fait que, je sais pas si t'as déjà vu des biches dans les bois, il y en a une qui voit un prédateur et elles bondissent toutes en même temps. C'est ça qui fait que les oiseaux vont tous faire une belle formation et tous voler en même temps, toujours en beau triangle pour les oies sauvages, etc. C'est cette partie du cerveau-là. On sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est si mystérieux, parce que cette partie du cerveau, elle est totalement dans les sensations, les perceptions du corps, mais elle n'a pas le langage. Elle est pas mal séparée du système du cerveau, de la partie du cerveau qui permet d'avoir le langage. Il n'y a aucune notion du temps. Est-ce que, vous, vraiment, levez la main ceux qui, quand ils font l'amour et que c'est vraiment génial, perdent totalement notion du temps, quoi. Hein ? On ne sait plus si c'est une seconde ou trois heures. On ne sait plus rien. Donc c'est totalement déconnecté de la notion du temps, c'est déconnecté de la conscience de soi aussi. Pour ça, alors c'est scepticisme et mysticisme, l'orgasme, le tantrisme et tous ces trucs, voilà. Cette partie de l'orgasme où il y a plein de gens qui disent qu'ils se sentent un avec l'univers. Qu'il y a la méditation assise et puis il y a la sexualité où on peut se sentir connecté à tout le monde. Moi, j'ai des amis qui me disent, avec leur chérie, ils savent plus si c'est leur corps ou pas. Ils touchent l'autre, mais ils croient que c'est leur corps à eux qui touche quand c'est l'autre. Enfin, il y a un truc où on n'est plus, voilà, ils sont tellement dans leur système limbique qu'ils sont connectés à l'autre, et il n'y a plus cette partie du cerveau qui nous donne notre conscience de soi-même. Et la personne qui dit, c'est cette partie cerveau là qui dit aussi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, de quoi j'ai l'air, oh là là, j'ai pris du ventre, est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'il est amoureux de moi, est-ce qu'il va se lâcher demain, mais que ma mère va penser de lui, je sais pas. est-ce que c'est clair, c'est là l'espèce de quart du cerveau, là, à peu près? Ok. Donc, ce que je trouve super dans l'imitation orgasmique, c'est que on amène la communication là où les gens me disent tout le temps, mais si on parle pendant qu'on fait ça, on casse complètement la magie. Et j'ai envie de dire, ouais, mais c'est mieux que de voir penser, oh, s'il pouvait seulement aller un peu plus à gauche, oh, s'il pouvait être un peu moins de pression, oh oui, chérie, c'est trop bien. Là, le temps peut être long. J'ai lu un article où on disait que les femmes, tous leurs gémissements, c'était plutôt pour encourager leur partenaire pour que ça aille plus vite. Voilà. Oups. J'étais là pour casser des tabous. Je me suis égarée. Ah oui, donc la méditation... Je vais me rasseoir, ça me calmait un peu. Donc la méditation orgasmique, ce qui est génial, c'est qu'on a 15 minutes où on observe nos sensations. Donc on est totalement... On s'immerge dans son système limbique. Petit à petit... On pratique, et puis petit à petit, on fait confiance en cette structure. On sait que ça a duré que 15 minutes, qu'il ne va pas nous sauter dessus après. En tout cas, il ne l'a pas fait pendant 15-20 fois, donc on s'imagine qu'il ne va pas le faire pendant les 15-20 fois prochaines. Du coup, ce système de vigilance, cette partie du cerveau qui est consciente, se calme. Et on ne peut pas être dans un état orgasmique. Donc, quand on est dans un état d'orgasme, cette partie-là s'éteint complètement, en fait. Et on est dans le système limbique, donc juste dans les perceptions, en dehors de la notion du temps, etc. Et ce qui est génial dans cette pratique, c'est que à la fin, ou même pendant, à la fin de la pratique, on dit à tel moment, j'ai ressenti telle sensation. J'ai ressenti un frisson qui a remonté le long de ma jambe. Un frisson comme de l'eau qui remontait. Ou j'ai ressenti comme du sable qui coulait... sur ma jambe, où j'ai ressenti de la chaleur qui est partie de mon clitoris et qui s'est diffusée dans mon bassin, où j'ai ressenti comme si je m'enfonçais dans le sol, où j'ai ressenti comme si je devenais très légère et je m'élevais. Alors j'ai plein de mes élèves qui disent j'ai ressenti une énergie. Ouais, mais une énergie ça veut rien dire du tout. On parle en termes de ce qu'il y a de plus concret possible, donc en termes de température, en termes de forme, en termes de densité, en termes de quel type de sensation c'est, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est mobile, est-ce que ça va dans un sens ou dans l'autre, où ça va, etc. Et ça permet quoi? Ça permet que cette partie du système limbique qui accède aux sensations, elle n'a pas... elle n'est pas trop connectée à la mémoire, elle n'est pas trop connectée au langage. Donc ça veut dire que ces choses-là nous traversent, mais si on n'y attache pas des mots, si on n'y met pas du langage, on ne s'en souviendra jamais qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une des choses les plus difficiles, parce que les gens, ils sortent de la pratique, ils sont là. C'était super. Ah, c'était extraordinaire, c'est génial. Oui, mais c'était de quelle température? Oui, mais c'était vibré ou c'était immobile, ou ça montait, ça descendait, ça faisait quoi? Et donc, ça permet d'identifier ce qu'on a ressenti, de le mettre dans notre catalogue de notre mémoire, ce qui fait que quand on le revit, on l'identifie et on le reconnaît. Et on le vit plus intensément. Et donc ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Mais l'autre chose géniale du fait de partager une sensation, c'est que notre partenaire, si on parle dans des termes suffisamment concrets, tout le monde peut savoir ce que c'est que quelque chose de chaud qui est dans une partie de notre corps, ou un frisson froid, ou une vibration, ou se sentir plus léger ou plus lourd. Donc l'autre dit, ah oui, je vois exactement ce que tu as ressenti. Et ce qui est paranormal, en tout cas ce qui est inexpliqué, c'est que très rapidement dans la pratique, les gens, quand il y en a un qui dit ça, l'autre dit « Ah oui, j'ai ressenti quelque chose du même ordre au même moment. » Ils n'ont pas forcément le même langage et ce n'est pas forcément exactement la même chose, mais c'est synchronisé et c'est quelque chose du même ordre. Donc, ouais.
Moi, je vois bien, je suis très terre à terre, je vois très bien le plaisir que la femme peut avoir, mais je ne vois pas très bien ce que l'homme...
Oui.
La sensation est dans le caoutchouc.
Mais en fait, alors je vois. Et donc, juste pour finir ça, donc, ce qui est génial, à mon avis, dans la méditation orgasmique, c'est qu'on apporte du langage là. Donc, ça permet de devenir conscient de ce qui se passe et ça permet de faire ce pont entre ces deux parties du cerveau. Et donc, d'être plus connecté avec son partenaire. Enfin, pour vous dire, moi, avant, j'avais souvent l'impression que dans mes rapports sexuels, on s'utilisait l'un à l'autre pour se masturber. On faisait chacun son tour ou quelque chose comme ça. Et bon, voilà, c'est pas très chouette pour moi. Aujourd'hui, c'est plus sympa. Encore une fois, je m'égare. Donc ça, le langage. Et aussi, donc, ce système de vigilance, cette voix qui s'inquiète tout le temps, qui essaie d'identifier les dangers, ce que les autres vont penser, etc. parce qu'il y a cette structure hyper forte où il y a un timer, il y a un chronomètre quand on pratique, où il y a une position qui est toujours la même, on fait le même geste. C'est pas mécanique, mais c'est toujours une petite caresse qui va de haut en bas, sur le clitoris uniquement. Parce qu'il y a la communication. Avant de faire quoi que ce soit, la personne qui caresse va dire « Je vais toucher tes cuisses. Je vais toucher ton sexe. Je vais me remettre bien dans la position. Je vais t'enjamber. » Il reste 2 minutes. Comme ça, on n'a pas besoin de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Ouh, il a enlevé sa main, qu'est-ce qu'il fait ? Il va la mettre où après ?» etc. Ça permet de garder ce système de vigilance tranquille, calme. Et parce que c'est tout le temps la même structure, petit à petit, on est plus en confiance. Et quand ça arrive, on peut... ce système involontaire peut s'activer. L'involontaire, c'est les deux systèmes nerveux qui fonctionnent ensemble, c'est le parasympathétique et le sympathique, je crois. Sympathique et parasympathique. Merci. Et ils fonctionnent rarement ensemble. Rarement, ils sont activés les deux en même temps. Donc, il y en a un qui nous donne la sensation qui est activée quand on chasse ou quand on est chassé, par exemple, qui va nous donner de la dopamine, je crois. Et ou de l'adrénaline, plutôt. Et qui nous donne envie, qui crée le désir. Donc, on va chercher quelque chose. Et l'autre, il nous donne la sensation de satiété, de satisfaction, de plaisir, contentement. Donc, il y en a un qui vient... dans un rapport amoureux, érotique, etc. Il y en a un qui vient d'abord, on a envie de l'autre, on va le chercher, il y a une espèce de jeu de séduction, etc. Après, il y a les deux. Donc, j'aime mon corps chasser, j'aime chercher, j'ai ces hormones-là d'excitation. Et en même temps, j'ai de la satisfaction, du plaisir. Je suis dans le jeu et c'est agréable. Puis après, il y a juste la satisfaction et là, on digère, on se repose, on dort, on est bien, on est détendu, etc. Et quand les deux sont activés, on a des mouvements involontaires. Donc là, c'est comme on sait qu'une femme ne simule pas, et ben, c'est quand il y a des mouvements qu'elle ne pourrait pas contrôler. Donc ça veut dire que son vagin va avoir des contractions qui sont assez rapides, qui sont un rythme particulier. C'est pas celle qu'on peut faire volontairement, c'est celle qu'on ne sait même pas qu'elles sont en train de se faire. Et puis si on peut avoir des tremblements, on peut avoir des choses qui se passent sans aucun contrôle. Moi, ça m'a mis du temps. Enfin, je suis particulièrement coincée, donc ça m'a pris un an et demi avant de s'activer. Et je connais des femmes qui pratiquent une fois et boum, elles sont complètement. voilà, elles sont complètement dans l'involontaire. Donc voilà, c'est pour ça que la méditation orgasmique, je la trouve si géniale parce que elle permet ça. Mais pour venir aux hommes, donc la méditation. En général, et la méditation orgasmique, parce qu'on pose notre attention sur des sensations. Donc en méditation, c'est souvent la respiration, on observe sa respiration. Ça active le système limbique, le système qui perçoit les données sensorielles et aussi émotionnelles. D'accord ? Donc on médite, puis on a des traumas d'enfant. Moi, ça m'est arrivé des traumas qui viennent, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer, j'ai des grosses émotions insurmontables. J'ai arrêté la méditation classique pour ça. Je ne savais pas comment gérer le truc. La méditation orgasmique me convient mieux parce que c'est 15 minutes, c'est encadré. Je ne suis pas toute seule pour affronter toutes ces grandes émotions-là ou ces grands trucs qui peuvent m'arriver. Ça, je ne parle pas trop vite ?
Non.
Ah, okay. Ok. Merci. Un peu.
Non, c'est bon.
Okay. Donc, la méditation et la méditation orgasmique active et stimule le système limbique, qui est une partie du cerveau qui a de la plasticité, donc qui peut être être exercé, qui peut s'améliorer, qui peut être entraîné. Voilà. Apparemment, à la naissance, c'est encore un sujet assez sensible quand on compare les genres ou les sexes, mais bon, c'est ça qui a été trouvé, on ne sait pas pourquoi, mais chez les femmes, c'est plus développé que chez les hommes. J'imagine que c'est parce qu'on est mère et qu'on est plus connecté à notre bébé parce que sans nous, il ne survit pas. Donc, il faut bien qu'on sente quand il a faim, quand il a besoin de nous, quand ça ne va pas. Donc, on est hyper connecté et on se réveille comme ça la nuit pour lui. Et les hommes, les petits garçons à la naissance, cette partie de leur cerveau est moins importante. Et la méditation orgasmique l'exerce. Donc les hommes peuvent développer leur système limbique, c'est-à-dire ils peuvent développer leur partie intuitive, ça veut rien dire si ce n'est on sait pas comment, on sait des choses mais on sait pas comment. Donc, c'est plutôt le ressenti, mais le ressenti, l'analyse inconsciente, je dirais. Il y en a qui connaissent la théorie du flow ? Le flow ? Non, personne ? Ok, j'en parlerai après alors. C'est très très lié. Donc, les hommes, en pratiquant la méditation orgasmique, donc ça, c'est ma façon de voir les choses.
Ça a été mesuré ?
La partie.
Le développement du limbique, machin.
Moi, ce que j'ai vu dans un truc des universités ou des gens qui ont regardé le cerveau, là, parmi je sais pas combien de pages, il y avait écrit ça, que cette partie du cerveau était plus importante chez les femmes, chez les
petites filles. Mais par rapport au fait que l'homme.
Je saurais pas te dire si c'est. Je sais que c'est le cas, mais je saurais pas te dire.
Ça peut être mesuré.
Peut-être. Mais écoute, ils ont fait des. Là, il y a 2-3 dernières années, ils ont fait à l'université de Rutgers à New York, et ils ont fait des IRM du cerveau pendant l'orgasme, etc. Donc c'est possible qu'ils ont regardé le système limbique. Après, est-ce qu'ils ont mesuré la taille du système limbique ? Ils doivent le voir sur. Ce sont des IRM, donc ils doivent le voir. Mais oui.
Ça s'est activé, ça, je sais.
Mais... Ouais. Okay. En tout cas, il est renforcé, quoi. Qu'est-ce que je disais ? Ils doivent savoir mieux, il est le plus accessible, peut-être. Enfin, moi, je le vis avec mes partenaires. C'est terrible de ne plus pouvoir rien leur cacher. C'est insupportable. Je peux plus rien garder. Pour moi, ils savent tout. Ils sont... Ah oui, donc les hommes. Donc ma façon de voir les choses, c'est que Il y a trois indicateurs dans la méditation orgasmique. Donc, il caresse le sexe de la femme. Donc, il a déjà une information visuelle. Donc, le sexe, il va lubrifier, il va gonfler, il va avoir des pulsations. Donc, déjà, il voit ce qui se passe. Ça change de couleur, etc. Déjà, il prend conscience, il a plein d'informations visuelles, tout en faisant une simulation. Donc, c'est intéressant. Pour ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo. Les informaticiens sont de super caresseurs, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Les pianistes aussi sont très bien.
Qui ça,
les informaticiens, les pianistes, oui, enfin... Allez, c'est complètement anecdotique.
Oui, voilà.
Donc, ils ont l'information visuelle. Après, il y a ce que la femme leur dit. Là, je ressens ça. Donc, quand on pratique, on peut très bien dire « Ah, là, en ce moment, je ressens ça. » Il y a aussi ce qu'elle va demander. « Est-ce que tu peux faire plus ça ou moins ça, etc. » Un peu plus de pression, un peu plus vite, un peu plus léger, etc. Donc, il a ce qu'elle, elle va dire, ce qu'il voit, et surtout ce qu'il ressent dans son corps à lui. Et puisqu'on est connecté par le système limbique, on ne sait pas comment on est connecté, mais on a les mêmes types d'informations. Au bout d'un moment... Entre les informations qu'elle va dire, entre ce qu'elle va dire, entre ce qu'il va voir et ce qu'il va ressentir, c'est trois trucs qui vont, au bout d'un moment, ça va coller, quoi. Ça va coïncider. D'accord ? Ça vous parle ou pas, ce que je dis là ?
Oui.
Ouais. Donc, au bout d'un moment, ça fait plus que un. Et là, il va développer une connaissance plus intuitive. Donc, quand ça commence à faire sens, le bazar... Il a plus confiance en lui. Et puis il caresse, il voit que ça gonfle, il voit que ça lubrifie. Elle dit un peu plus à gauche. Ah, il voit que là, ça gonfle encore plus. Il voit que, oh, il ressent des trucs dans son corps, il sent de l'excitation, il ressent que dans son sexe, il y a aussi un répondant, comme un écho, comme quelque chose où il va sentir l'électricité, comme un aimant, comme enfin, plein de sensations qu'on peut avoir. Et donc, et du coup, c'est comme s'il s'habitue à ressentir ces choses-là. C'est comme on se met sur une fréquence qu'on n'est pas habitué. Des fois, on est dessus, puis là, dans ce moment-là, on est dans des moments, on va dire, de fusion. Et comment il a su me toucher là ? Il a lu dans mes pensées, c'était le moment parfait. On est complètement synchro, on est fusionnel et c'est génial, mais ça n'arrive pas tout le temps, pas forcément. Et c'est dans ces moments-là qu'on attend celui qui. Où ça se fait naturellement, c'est génial. Je sais plus ce que je disais. En tout cas, pour les hommes, ce que j'observe, c'est ça. C'est qu'au départ, ils ont différentes informations. Puis d'un coup, tout colle. Et puis, ils s'habituent à observer ça, à ressentir ça. Et ils se deviennent plus familiers. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Et après, ils l'ont avec eux. Et comme c'est moins déstabilisant et moins perturbant, le bordel d'avoir plein de choses qui vont dans tous les sens, au bout d'un moment, non, ils comprennent ce qui se passe. Donc, ils ont plus confiance en eux. et donc ils sont plus sensibles. En fait, c'est à dire que ils vont percevoir des choses sensorielles qu'ils ne percevaient pas forcément avant. C'est-à-dire qu'avant, allez, truc très simple. Si, super pour les hommes. Qu'est-ce que ça apporte aux hommes?
Mais aussi aux femmes.
Pour moi, par exemple, au début de ma pratique, je pratiquais avec un ami. Je lui demandais de faire une caresse tellement légère qu'il ne sentait pas du tout mon clitoris sous son doigt. Il ne savait pas où est-ce qu'il était. Et son doigt est devenu de plus en plus sensible. Donc c'était autant de données sensorielles auxquelles il a eu accès. Et là, on peut se retrouver parce que la pression sur mon sexe, bon, je peux apprécier ça, j'apprécie ça aujourd'hui, mais avant, c'était très difficile. J'ai besoin de très, très, beaucoup, beaucoup de légèreté pour pouvoir que ça me réveille, que je sois bien, que j'ai du désir. Sinon, si on me fout un truc tellement de pression sur moi, je ne peux pas avoir envie, mais j'ai plus d'espace d'avoir envie, je suis écrasée. Donc le fait qu'il puisse ressentir des choses, alors des sensations lui-même sur un champ sensoriel auquel il n'avait pas accès avant, ça fait qu'on peut se rencontrer parce que c'est sur ce champ sensoriel là que moi j'ai du plaisir. Et il se trouve que la plupart des hommes que je connais, ils ont très envie que leur compagne ait beaucoup de plaisir. Ils oublient même le leur, ils oublient leur propre plaisir, ce qui est dramatique parce que quelqu'un qui est là pour essayer de tout faire pour moi, c'est assez désagréable. Je n'aime pas avoir quelqu'un qui est là, je vais faire ci pour toi, je vais faire ça, j'ai l'impression d'avoir un esclave qui me suit, et qui... c'est insupportable. Je préfère avoir quelqu'un qui est dans ses bottes, qui est bien, qui est droit, et qui aussi sait s'occuper de lui et être connecté avec moi. Donc c'est plutôt chouette d'avoir quelqu'un en face qui tient son pôle, et qui est connecté en même temps, et qui peut me rencontrer là où je suis. Sinon il y en a un qui parle là, l'autre qui parle là, et puis ça va pas. Moi, j'ai des partenaires qui me disaient « Ah, oh, qu'est-ce que tu désires ?»« Bon, tu me dis que t'es coincé, que ça va pas sexuellement, blablabla, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ?» Donc, je disais « Oh, si tu pouvais m'effleurer tout le corps pendant une heure, très très légèrement, ce serait génial. » Et quand j'étais vraiment au milieu de mon extase, j'étais au 7e ciel, c'était vraiment fabuleux, c'était le meilleur moment de ma vie, il me dit « Tu dors ?» Mais c'est pour vous dire à quel point on n'est pas sur la même fréquence, quoi. Et maintenant que je fais de la méditation orgasmique, les partenaires que j'ai, ils peuvent me rencontrer là où je suis. Donc ce qui était avant invisible pour eux, ils le perçoivent. Et c'est assez, assez chouette. Et moi, c'est pareil, j'ai étendu mon spectre de ce que je peux ressentir. La partie du cerveau qui s'occupe de la douleur et du plaisir, c'est la même. C'est intéressant de voir ça aussi. Ça peut passer d'un côté à l'autre. Ok, je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense qu'on peut passer aux questions. Ouais.